La pièce de Psyché qu'on jouait alors seconda heureusement ses dessins et donna naissance à leur amour. La Molière représentait Psyché acharnée et Baron, dont le personnage était l'amour, y enlevait les cœurs de tous les spectateurs. Les louanges communes qu'on leur donnait les obligèrent de s'examiner de leur côté avec plus d'attention et même avec quelque sorte de plaisir. Baron n'était pas cruel, il se fut à peine aperçu du changement qui s'était fait dans le cœur de la Molière en sa faveur, qu'il y répondit aussitôt. Il fut le premier qui rompit le silence par le compliment qu'il lui fit sur le bonheur qu'il avait d'avoir été choisi pour représenter son amant, qu'il devait l'approbation du public à cet heureux hasard, qu'il n'était pas difficile de jouer un personnage que l'on sentait naturellement, qu'il serait toujours le meilleur acteur du monde si l'on disposait les choses de cette manière. La Molière répondit que les louanges qu'on donnait à un homme comme lui étaient dues à son mérite et qu'elle n'y avait nulle part, que, cependant, la galanterie d'un homme que l'on disait avoir tant de maîtresses ne la surprenait pas et qu'il devait être aussi bon comédien auprès des dames que sur le théâtre. Baron, à qui cette manière de reproche ne déplaisait pas, lui dit de son air indolent qu'il avait, à la vérité, quelques habitudes que l'on pouvait nommer bonne fortune, mais qu'il était prêt à lui tout sacrifier et qu'il estimerait davantage la plus simple de ses faveurs que le dernier emportement de toutes les femmes avec qui il était bien et dont il lui nomma aussitôt les noms par une discrétion qui lui est naturelle. La Molière fut enchantée de cette préférence et l'amour-propre qui embellit tous les objets qui nous flattent lui fit trouver un appât sensible dans le sacrifice qu'il lui offrait de tant de rivales. Une fois sur ce terrain, ils furent vite d'accord. Mais leur caractère avait trop de ressemblances pour que la fantaisie pût durer longtemps. Armande ne congédia pas un seul de ses amants, Baron ne rompit pas avec une seule de ses maîtresses. La jalousie arriva, puis les querelles vinrent. Ils échangèrent des reproches et des mots piquants. Les représentations de Psyché duraient encore, que déjà tout était fini entre eux. Ils s'étaient pris sans remords, ils se quittèrent sans regret, mais plus ennemis que jamais. Ils s'étaient jugés et se méprisaient. La coquette reprit ses conquêtes, le fat retourna chez les duchesses réclamer son bonnet de nuit ou forcer à rougir les portraits d'ancêtres. Molière avait été averti de la liaison, il fut prévenu de la brouille, mais il ne parla jamais de rien à son protégé et continua à le traiter comme par le passé. Cette rupture ne ramena pas Armande à son mari. Elle remplaça Baron par l'abbé Lavaux et quelques autres, et pour elle, tout fut dit. Cependant, vers la fin de 1671, les amis de Molière, voyant augmenter sa mélancolie, songèrent à le rapprocher de sa femme. Ils y réussirent, et de ce rapprochement naquit, 15 septembre 1672, un fils qui ne vécut qu'un mois. Mais déjà, la santé de Molière commençait à donner les plus sérieuses inquiétudes. Sa poitrine se prenait, sa réconciliation avec Armande lui porta les derniers coups et hâta sa fin. Armande aimait à souper. Pour lui plaire, pour avoir le plaisir de souper avec elle, il renonça à son régime sévère, 2 tasses de lait par jour, et adopta le régime échauffant de Chapelle et de Baron. C'était plus que n'en pouvait supporter le malheureux grand homme, écrasé de toutes les lassitudes de la tête, de l'âme et du corps. Et c'est à cette heure, lorsque tout autre se serait mis aux mains des médecins, qu'il leur porte les plus terribles coups. Le 10 février 1673, le malade imaginaire fut représenté pour la première fois. La faculté allait être vite et bien vengée. Le jour de la 4e représentation de cette comédie si bouffonne et si lugubre, le 17 février 1673, premier anniversaire de la mort de Madeleine Béjart, Molière, qui remplissait le rôle d'Argan, se sentit plus malade. Baron, Armande, tous ceux qui l'entouraient, le conjurèrent en vain de ne pas jouer, de prendre un peu de repos. « Comment voulez-vous que je fasse ?» leur répondit-il. « Il y a 50 pauvres ouvriers qui n'ont que leur journée pour vivre. Que feront-ils si je ne joue pas ? Je me reprocherai toute ma vie d'avoir négligé de leur donner du pain un seul jour, le pouvant absolument. » Après une telle réponse, toutes les prières étaient inutiles. Il fut seulement convenu que le spectacle commencerait à 4 heures précises. À 4 heures, en effet, la toile se leva et l'agonie de Molière commença avec le malade imaginaire. Il sentait la vie lui échapper et, cependant, avec un courage inouï, il poursuivait son rôle, raillant, lui malade, la maladie, bernant, lui mourant, les médecins. Et jamais il n'avait si bien joué, ni si naturellement, jamais on n'avait tant ri, tant applaudi. Et cette foule insoucieuse ne se doutait guère que là, sous ses yeux, sur le théâtre, expirait le rire aux lèvres, le plus grand poète du monde. Ses forces étaient à bout, cependant. Dans la cérémonie, au moment où il prononçait le mot « jureau », une convulsion le prit qu'il dissimula à grand-peine sous un rire forcé. La représentation ne fut pas interrompue, mais aussitôt après, il fallut le transporter chez lui, rue Richelieu. On n'avait pas pu le déshabiller, la robe de chambre d'argan devait être son linceul. Bientôt, sa toux le reprit avec une extrême violence, un des vaisseaux de la poitrine se rompit et il rendit par la bouche une grande quantité de sang. Quelques moments plus tard, il expirait, entouré des siens, entre les bras de deux religieuses auxquelles il avait coutume de donner l'hospitalité lorsqu'elles venaient à Paris. Molière mourant avait réclamé les secours de la religion. Ils lui furent refusés par les prêtres de Saint-Eustache. Mort, on lui refusa les honneurs d'une sépulture chrétienne. Ainsi le voulut l'archevêque de Paris, Harlay de Champvallon. On comprend l'intolérance de ce prélat. Quelques années après, il devait mourir des suites de ses crapuleuses débauches. Tartuffe prenait sa revanche. Le scandale de ce refus barbare fut grand et l'épigramme indigné de Chapelle n'est que l'expression de l'indignation générale. Puisqu'à Paris on dénie la terre, après le trépas, à ceux qui, pendant leur vie, ont joué la comédie, pourquoi ne jette-t-on pas les bigots à la voirie? Ils sont dans le même cas. En cette circonstance, au moins, la conduite d'Armande fut digne. Sa douleur ne fut peut-être ni bien sincère ni très profonde, mais on approuva sa contenance désolée. Elle sentait, à ce moment suprême, la pertinence qu'elle venait de faire. Elle était fière de porter le nom de cet homme que toute la France allait pleurer. Lorsqu'elle apprit la décision de l'archevêque de Paris, elle fut transportée d'une noble colère. « Quoi ? S'écria-t-elle, on refusera la sépulture à celui qui, dans la Grèce, eût mérité des autels ?» Et, montant en carrosse avec le curé d'Auteuil, elle courut à Versailles se jeter aux pieds du roi et demander justice. Malheureusement, sa douleur et son indignation l'emportèrent. Elle osa dire à Louis XIV que si son mari était criminel, ses crimes avaient été autorisés par sa majesté même. À ces mots, le roi fronça le sourcil. Pour comble de disgrâce, le curé d'Auteuil crut le moment bien choisi pour se disculper d'une accusation de jansénisme et entama un long discours. Louis XIV congénia brusquement le curé et la comédienne en leur disant que cette affaire ne dépendait que de l'archevêque de Paris. Cependant, des ordres secrets furent donnés à Harlay de Champvallon qui, s'exécutant à demi, refusa l'entrée de l'église mais accorda deux prêtres pour conduire le corps au cimetière. Cette transaction forcée exaspéra les Tartuffes et, ne pouvant refuser un coin de terre à Molière, ils organisèrent une émeute devant sa maison le jour de ses funérailles. Armande, effrayée des cris de la populace, ouvrit les fenêtres et jeta de l'argent, 1 000 francs environ. Aussitôt, les dispositions changèrent. Enfin, le 21 février 1673, les restes mortels de ce grand homme, dont s'honore la France et l'humanité, furent portés à leur dernier asile, sans pompe, la nuit, presque furtivement, comme ceux d'un criminel. Molière fut enterré au cimetière Saint-Joseph, rue Montmartre. Sa veuve y fit porter une grande tombe de pierre qui s'y voyait encore en 1732. Cette pierre, dit Titon du Tillet, est fendue par le milieu, ce qui fut occasionné par une action très belle et très remarquable de sa veuve. 2 ou 3 ans après la mort de Molière, il y eut un hiver très froid. Elle fit voiturer 100 voix de bois dans ledit cimetière, lequel bois fut brûlé sur la tombe de son mari pour chauffer tous les pauvres du quartier. La grande chaleur du feu ouvrit cette pierre en deux. Ces grands feux allumés sur la tombe de Molière étaient moins un hommage rendu à sa mémoire qu'une fantaisie d'ostentation de sa veuve. Pour s'en convaincre, il ne faut que regarder la conduite d'Armande. Ses larmes de parade furent bien vite séchées. Les cendres du grand homme n'étaient pas froides encore que son indigne veuve osait reparaître sur le théâtre dans une des pièces qu'autrefois elle jouait avec lui. Paris entier fut indigné de ce mépris des plus vulgaires convenances. Il sembla, dit une correspondance, qu'elle avait perdu quelque chose de son talent. La comédienne, en effet, avait perdu les conseils de son mari. Elle en avait besoin. L'autorité de Molière était nécessaire pour l'obliger à modérer sa coquetterie. Souvent, sa passion pour la parure l'entraînait et lui faisait porter des toilettes qui allaient très bien à sa taille et à sa figure, mais qui n'allaient pas du tout à ses rôles. C'est ainsi que, le soir de la première représentation de Tartuffe, où elle jouait Elmire, elle eut une cruelle mortification. Comme elle savait que la pièce qui avait soulevé tant d'orages avant la représentation attirerait un monde infini, elle revêtit la plus belle de ses toilettes. Au dernier moment, Molière, faisant sa ronde, entre dans la loge de sa femme et ne peut retenir sa surprise en la voyant si magnifiquement parée. « Que voulez-vous dire avec cet ajustement ? » s'écrie-t-il. « Ne savez-vous pas que vous êtes incommodée dans la pièce ? Vous voilà habillée et ornée comme si vous alliez à une fête. Déshabillez-vous vite et prenez un habit convenable à la situation où vous devez être. » Une querelle s'ensuivit et le dépit d'Armande fut si grand qu'en moment, on crut qu'on ne pourrait pas la décider à jouer ce soir-là. Bientôt, les intrigues amoureuses de cette veuve inconsolable recommencent de plus belle. La Châteauneuf est toujours son intendante. Entre tous ses adorateurs de cette époque, on remarque surtout un certain Duboulet, homme assez du monde et sachant à peu près l'air du bureau. Riche et généreux, Duboulet devait plaire à Armande, mais elle le vit si épris que, conseillée par la Châteauneuf, elle pensa qu'avec un peu d'adresse, elle pourrait le conduire jusqu'au mariage. La voilà donc, faisant la cruelle pour la première fois de sa vie et refusant jusqu'à la moindre faveur. Par malheur, ce rôle, tout à fait en dehors de son emploi, lui sembla si difficile qu'elle ne sut pas le soutenir jusqu'au bout. Elle céda. Mais Duboulet avait vu le piège, il se tint sur ses gardes. Bien décidé à ne jamais se laisser prendre pour dupe, il promit à la belle tout ce qu'elle voulut et ne fut avare ni de serments ni de protestations. Seulement, dès qu'elle abordait la grande question, il trouvait mille prétextes excellents et des raisons indiscutables. Cette intrigue laissait beaucoup de temps à Armande, c'est pourquoi elle entreprit d'enlever l'amant d'une actrice, entrée depuis peu dans la troupe, Mademoiselle Guillot. Cet amant, nommé Guérin, pitoyable acteur, n'avait rien absolument de séduisant, aussi s'explique-t-on difficilement cette fantaisie. Celui qui en était l'objet fut surpris tout le premier. Il ne se croyait pas tant de mérite. Mais il songea bien vite à profiter de ces bonnes grâces imprévues et ne fit aucune difficulté de se rendre aux avances de la veuve de Molière. Guérin, caractère souple, insinuant et rusé, était un de ces hommes capables des dernières bassesses quand leur intérêt était en jeu. Il étudia Armande et eut vite la clé du caractère de cette insigne coquette. Il comprit qu'avant tout et surtout, il fallait se déclarer son esclave et adorer à genoux ses caprices. Ce fut un jeu pour lui. Certes, du premier coup, il aurait très volontiers abandonné la Guillot, sa maîtresse depuis plusieurs années, mais en homme adroit, il feignit d'hésiter. Il ne voulait pas lâcher la proie pour l'ombre et il n'était pas encore assez sûr des dispositions de la Molière pour quitter la Guillot. Enfin, il se dit qu'il fallait surtout irriter la passion de la capricieuse comédienne, si passion il y avait. Ses prévisions ne le trompèrent pas. Ravir ce méchant acteur à la Guillot devint la plus chère ambition d'Armande. Son manège devint si évident que Duboulet s'en aperçut et saisit ce prétexte pour s'éloigner, ne laissant entre les mains de sa perfide qu'une bonne somme et beaucoup de bijoux. Tout occupé de ses projets, Armande ne lui donna pas un regret. C'est à ce moment qu'arriva à la veuve de Molière la plus étrange et la plus scandaleusement romanesque des aventures. Une femme, qui lui ressemblait à tromper l'œil d'un amant, se fit passer pour elle. C'est absolument, quant au fond, l'histoire du collier de la reine. ce sont les mêmes ruses, la même crédulité, la même innocence. On comprend, à la lecture de ce bizarre récit, comment une ressemblance fatale a pu compromettre une reine innocente, mais entourée d'ennemis. Et le rôle du président Lescaut, rôle de dupe de bonne foi, explique et excuse celui du cardinal de Rohan. Il y avait une créature à Paris, appelée la Tourelle, qui lui ressemblait si parfaitement qu'il était malaisé de ne pas s'y méprendre. Elle faisait même métier de galanterie que la Molière, mais avec moins de bonheur, ce qui lui donna la pensée, voyant qu'elle lui ressemblait si bien, de passer pour la Molière à ceux qui n'avaient pas grand commerce avec elle. Elle voulut essayer par là si sa fortune n'augmenterait point. La chose lui réussit si bien pendant quelques mois que tout le monde y était trompé. Un président de Grenoble, nommé Lescaut, qui était devenu amoureux de la Molière en la voyant sur le théâtre, cherchait par tout Paris quelqu'un qui pût lui en donner la connaissance. Il allait souvent chez une femme nommée la Ledoux, dont le métier ordinaire était de faire plaisir au public. Il lui témoigna qu'il souhaiterait connaître la Molière et que la dépense ne lui coûterait rien, pourvu qu'il pût réussir. La Ledoux, par malheur, ne la connaissait point. La chose n'aurait pas été difficile, pour peu qu'elle eût d'habitude avec elle. Néanmoins, elle se souvint que, sans se donner tant de peine, la Tourelle pourrait admirablement faire le personnage. C'est pourquoi elle dit au président qu'elle ne la connaissait point, mais qu'elle savait une personne qui la gouvernait absolument, qu'elle la ferait pressentir sur ce chapitre et que, dans quelques jours, elle lui en donnerait des nouvelles. Le président la conjura de ne rien oublier pour lui assurer le succès et qu'elle devait être sûre de sa reconnaissance. Du moment qu'il fut sorti, elle envoya chercher la Tourelle, à qui elle dit qu'elle avait trouvé une bonne dupe, qu'il en fallait profiter, qu'elle se tint prête pour le jour qu'elle l'enverrait quérir et qu'elle se préparât à bien contrefaire la Molière. Le lendemain, le président revint fort empressé pour savoir le résultat de sa négociation. La Ledoux lui dit qu'elle n'allait pas si vite, qu'on lui avait seulement promis d'en parler à la Molière et qu'il fallait se donner un peu de patience. Le président la conjura de nouveau d'y donner tous ses soins. Il venait tous les jours pour savoir s'il y avait lieu d'espérer. Enfin, quand la Ledoux eut pris le temps qu'il fallait pour faire valoir ses peines, elle dit au président, avec beaucoup de joie, qu'elle avait surmonté les obstacles qui s'étaient opposés à sa passion et qu'elle avait la parole de la Molière pour venir chez elle le lendemain. L'amoureux président lui promit de se souvenir toute sa vie du service qu'elle lui rendait. Il prit l'heure du rendez-vous, où il se trouva longtemps avant la demoiselle, qui vint avec un habit fort négligé, comme une personne qui appréhendait d'être connue. Elle affecta la toux éternelle de la Molière, ses airs importants, ne parlant que de vapeur, et joua si bien son rôle qu'un homme plus connaisseur y eût été trompé. Elle lui fit fort valoir l'obligation qu'il lui avait d'être venu dans ces sortes de lieux dont le nom seul lui faisait horreur. Le président lui dit qu'elle n'avait qu'à prescrire la reconnaissance et que tout ce qu'il avait au monde était en son pouvoir. La Tourelle fit fort l'opulente et après s'être longtemps défendue, elle lui dit qu'elle voulait bien prendre un présent de lui, pourvu qu'il ne fût que d'une fort petite conséquence, qu'elle ne voulait qu'un collier pour sa fille qui était en religion. Aussitôt, notre amoureux la mena sur le quai des Orfèvres où il la pria de choisir le collier tel qu'il lui plairait. Elle lui dit qu'elle n'en voulait un que d'un prix fort médiocre. Ses manières magnifiques furent un nouveau charme pour le président. Il continuait de la voir au même endroit et elle lui recommandait de ne lui point parler sur le théâtre parce que ce serait le moyen de la perdre entièrement et que ses camarades, qui avaient une extrême jalousie contre elle, seraient ravis d'avoir une occasion de parler. Il lui obéissait et se contentait d'aller admirer la Molière, croyant que ce fût elle. Il admirait alors avec justice dans le rôle de Circé qu'elle jouait et dont elle s'acquittait parfaitement. Il y avait un certain habit de magicienne et quantité de cheveux épars qui lui donnaient un grand agrément. Un jour que la Tourelle avait donné rendez-vous au président chez la Ledoux, elle y manqua. Son amant, après l'avoir longtemps attendue, voulut aller à la comédie et toutes les raisons de la Ledoux ne purent l'en empêcher. Il fut donc à l'hôtel de Guénégaud et la première personne qu'il aperçut sur le théâtre fut la Molière. Il se détermina d'abord à y monter contre les défenses qu'il croyait qu'elle lui avait faites, mais il crut qu'un petit emportement de passion ne lui déplairait pas. Il y monta dans le dessein de lui marquer le chagrin qu'il avait de ne pas l'avoir vue l'après-dîner. D'abord qu'il fut sur le théâtre, il ne put lui parler à cause d'un nombre infini de jeunes gens qui l'entouraient. Il se contentait de lui sourire toutes les fois qu'elle tournait la tête de son côté et de lui dire, quand elle passait dans une aile de décoration où il s'était mis exprès, « Vous n'avez jamais été si belle. Si je n'étais pas amoureux, je le deviendrais aujourd'hui. » La Molière ne faisait aucune réflexion à ce qu'il lui disait. Elle croyait que c'était un homme qui la trouvait à son gré et qui était bien aise de le lui faire connaître. Pour le président, il était hors de mesure de voir avec quelle négligence elle recevait ses douceurs. La pièce lui semblait d'une longueur insupportable dans l'envie qu'il avait de savoir sa destinée. Il fut l'attendre à la porte de la loge où elle se déshabillait et y entra avec elle lorsque la comédie fut finie. La Molière est fort impérieuse et la liberté du président lui parut par trop grande pour un homme qu'elle n'avait jamais vu. Ce n'est pas qu'il se soit permis d'entrer dans les loges des comédiennes, mais il faut du moins que ce soit Jean qu'elle connaisse. C'est pourquoi la Molière, qui n'avait jamais vu son visage, fut surprise de sa hardiesse et, pour l'en punir, elle résolut de ne rien répondre à tout ce qu'il lui dirait. Il crut d'abord qu'elle n'osait parler en présence de la femme de chambre qui la déshabillait. Ce fut un nouvel obstacle pour le président que cette fille. Et comme il n'osait témoigner son inquiétude devant elle, il faisait signe à la Molière de la renvoyer et qu'il avait quelque chose à lui dire. La Molière n'avait garde de répondre à des signes qu'elle n'entendait pas. Mais notre amant, qui croyait être assez d'intelligence avec elle pour qu'elle dût comprendre cette façon de s'exprimer, toute muette qu'elle était, prenait pour des marques de colère le refus qu'elle faisait d'y répondre, et l'envie qu'il avait d'apprendre ce qui causait cette froideur l'obligea de s'approcher et de lui demander ce qui l'avait empêché d'avoir le bonheur de la voir l'après-dîner. La demoiselle lui demanda d'un ton fort haut ce qu'il disait. Il lui demanda d'un ton encore plus bas si l'on osait dire devant cette fille ce que l'on pensait. La Molière, étonnée de ce discours, lui répondit d'une voix encore plus élevée « Je ne crois pas avoir rien d'assez mystérieux avec vous, monsieur, pour devoir prendre ces sortes de précautions, et vous pourriez, avec moi, vous expliquer devant toute la terre. » L'aigreur avec laquelle elle acheva ces mots fit entièrement perdre patience au président qui lui dit « J'approuverais votre procédé si j'avais fait quelque action qui pût vous déplaire depuis que je me connais, mais je n'ai rien à me reprocher. Et quand vous manquez au rendez-vous que vous m'avez donné et que je viens tout inquiet vous trouver, craignant qu'il ne vous soit arrivé quelque accident, vous me traitez comme le plus criminel des hommes. » Il serait impossible de bien représenter l'étonnement de la Molière. Plus elle considérait le président, moins elle se souvenait de lui avoir jamais parlé. Et comme il avait la mine d'un honnête homme, l'émotion avec laquelle il continuait de lui faire des reproches, lui marquant que ce n'était ni jeu d'esprit ni gageure, augmentait si fort sa surprise qu'elle ne savait que croire de ce qu'elle voyait. Le président, de son côté, ne pouvait comprendre d'où venait le silence de la Molière. « Enfin, lui dit-il, donnez-moi une bonne ou une mauvaise raison qui justifie un procédé pareil au vôtre. » Il cessa de parler pour entendre la réponse de la Molière, mais elle n'était pas revenue de son étonnement et lui était dans la dernière consternation. C'était une chose plaisante que de les voir se regarder tous deux sans se rien dire et s'examiner avec une attention qu'on ne peut se figurer. Néanmoins, la Molière résolut de s'éclaircir d'une aventure qui lui paraissait si surprenante. Elle demanda au président, avec un grand sérieux, ce qui pouvait l'obliger à lui dire qu'il la connaissait, qu'elle avait pu croire au commencement que c'était une plaisanterie, mais qui la poussait si loin qu'elle ne la pouvait plus supporter, surtout d'où lui venait son obstination à lui soutenir qu'elle lui avait donné un rendez-vous auquel elle avait manqué. « Ah Dieu !» s'écria le président. « Peut-on avoir l'audace de dire à un homme que l'on n'a jamais vu, après ce qui s'est passé entre vous et moi ?» Et de sortir du respect que j'ai pour toutes les femmes, mais vous êtes indigne qu'on en conserve pour vous. Après m'être venu trouver 20 fois dans un lieu comme celui où je vous ai vu, il faut que vous soyez la dernière de toutes les créatures pour m'oser demander si je vous connais. » On peut juger que la Molière, de l'humeur dont elle est, ne fut pas insensible à ses duretés. Et croyant que c'était une insulte que le président lui voulait faire, elle dit à sa femme de chambre d'appeler ses camarades. « Vous me faites plaisir, lui dit cet amant outré, et je souhaiterais que tout Paris y fût pour rendre votre honte plus publique. » « Insolent, j'aurai bientôt raison de votre extravagance, lui dit la Molière. » Dans ce moment, une partie des comédiens entra dans la loge où ils trouvèrent le président dans une fureur inconcevable et la demoiselle dans une si grande colère qu'elle ne pouvait parler. Elle expliqua pourtant à peu près à ses camarades ce qui l'avait obligée de les envoyer quérir pendant que le président leur contait aussi les raisons qu'il avait d'en user de cette façon, leur protestant avec 1000 serments qu'il connaissait la Molière pour l'avoir vue plusieurs fois et que le collier qu'elle avait au cou était un présent qu'il lui avait fait. La Molière, entendant cela, voulut lui donner un soufflet. Mais il la prévint et lui arracha son collier, croyant avec la dernière certitude que ce fut le même qu'il avait donné à la Tourelle, encore que celui-là fût beaucoup plus gros. À cet affront que la demoiselle crut ne pas devoir supporter, elle fit monter toutes les gardes de la Comédie, on ferma les portes et on envoya chercher un commissaire qui conduisit le président en prison où il fut jusqu'au lendemain, qu'il en sortit sous caution, soutenant toujours qu'il prouverait ce qu'il avait forcé à maltraiter la Molière, ne pouvant se persuader que ce ne fut pas elle qu'il avait vue chez la Ledoux. La Molière, qui avait reçu une insulte furieuse, demandait de grandes réparations contre le président. On informa de la chose. Elle fut confrontée avec l'orfèvre, croyant que cette seule preuve détruirait l'erreur du président. Mais elle fut bien autrement désolée quand l'orfèvre assura qu'elle était la même qui avait acheté le collier avec le président. Elle était inconsolable de ce que toute son innocence ne pouvait se justifier. Elle faisait faire des perquisitions par tout Paris de la Ledoux, que l'on disait être celle qui l'avait produite, mais cette femme s'était cachée à la première nouvelle qu'elle avait eue de cette affaire et on eut beaucoup de peine à la retrouver. Enfin, elle fut prise, elle avoua toute l'affaire et qu'il y avait une femme qui, par la ressemblance qu'elle avait avec la Molière, avait trompé une infinité de gens, que c'était la même qui avait produit l'erreur du président. La Tourelle fut prise à son tour. La Molière en eut une joie inexprimable, espérant par là faire croire dans le monde que tous les bruits qui avaient couru d'elle avaient été causés par la ressemblance qui était entre elle et la Tourelle. Elle faisait travailler avec soin au procès de sa rivale et, comme elle avait de l'argent, les choses allèrent ainsi qu'elle voulut et, malgré l'injustice qu'il y avait, à la punir d'un crime dont la Molière aurait pu lui donner des leçons. Le président Lescaut fut condamné à une amende et à une réparation verbale, c'est-à-dire à payer 200 écus et à venir déclarer au greffe, en présence de la Molière et de 4 personnes telles qu'elle voudrait choisir, que, par méprise et inadvertance, il aurait usé de voies de fait contre elle et tenu les discours injurieux mentionnés au procès, l'ayant prise pour une autre personne. Le même jugement condamnait les 2 intrigantes à être fustigées, nues, de verges, au-devant de la principale porte du Châtelet et devant la maison de ladite Molière. Mais la Ledoux subit seule sa peine. La Tourelle, qui avait des amis un peu partout, réussit à s'évader et évita ainsi le fouet. Ce succès judiciaire exalta singulièrement l'orgueil d'Armande. Elle prétendit se faire de la sentence du Châtelet, sentence confirmée par le Parlement, un brevet de vertu. Elle essaya de mettre sur le compte de l'élève de la Ledoux tous les désordres de son passé. À l'entendre, dès le lendemain de son mariage et pendant toute sa vie, elle avait été victime de cette étrange et fatale ressemblance. Ainsi, elle était immaculée et la Tourelle avait tout fait. C'était elle, la coquine, qui avait été la maîtresse de l'abbé de Richelieu, qui s'était éprise du comte de Guiche, qui avait aimé Lauzun, Lavaux, Baron, Duboulet et tous les autres, et finalement avait fait mourir Molière de douleur et de jalousie. « Assez bonne fille jusqu'alors, dit une correspondance. La Molière devint tout à coup d'une fierté aussi ridicule qu'insupportable. Elle affichait des airs de pruderie et avait toujours à la bouche sa sagesse et sa vertu. Dans le public, on riait fort de ses prétentions. Seul Guérin ne riait pas et paraissait croire comme article de foi tout ce que lui contait Armande. À force de soumission et de bassesse, il s'était établi dans l'esprit d'Armande. Depuis plusieurs mois déjà, il avait quitté la Guillot et songeait sérieusement à se faire épouser par la veuve de Molière. Mais malgré toutes ses ruses, Guérin n'en serait pas arrivé à ses fins si Armande ne s'était trouvée enceinte. Pour cette fois, il lui fallait ou se marier ou renoncer au bénéfice du diplôme de sagesse délivré par le Châtelet. Elle hésita longtemps. La liberté du veuvage lui plaisait et, en outre, il lui semblait dur d'échanger pour le nom d'un méchant comédien le nom illustre de Molière. Elle se résigna pourtant, convaincue que son nouveau mari serait toujours un esclave à genoux devant ses moindres fantaisies. Comme sa grossesse était très apparente, elle prit toutes les précautions qu'il fallait pour se marier secrètement afin de faire croire que le mariage était depuis longtemps fait et conclu dans les formes. Le 31 mai 1677, la veuve de Molière épousait le sieur Guérin d'Estrichet. Les grâces et les rires règnent sur son visage, elle a l'air tout charmant et l'esprit tout en feu, elle avait un mari d'esprit qu'elle aimait peu, elle en prend un de chair qu'elle aime davantage. Tel est l'épître à l'âme qu'on improvisa le lendemain du mariage d'Armande. Mais hélas, elle avait croqué sa lune de miel avant le sacrement. Après 8 jours d'union, le plus soumis des amants était devenu le plus tyrannique des époux. Guérin vengea Molière. Il alla même, dit-on, jusqu'à battre la belle, la dorée, l'irrésistible Célimène. Alors, sans doute, elle regretta sincèrement Alceste. Avec Guérin, plus de fêtes, plus de bonnes parties, plus d'escadrons d'adorateurs. Cet homme, sans délicatesse, lui déclara qu'il voulait être le maître et lui signifia qu'elle eut à s'abstenir de toute coquetterie. Elle voulut résister dans les commencements, mais il était le plus fort, il le prouva, et elle se soumit. Il mit si bon ordre à sa conduite qu'elle en vint à ne plus oser recevoir personne sans sa permission. Comme cependant il lui fallait à tout prix des adorations, elle se contenta, faute de mieux, des hommages d'un sieur Aubry qui demeurait dans sa maison. Mais Guérin eut vent de cette intrigue et Aubry reçut congé. Ne pouvant faire autrement, Armande finit par se résigner au pot-au-feu conjugal. Elle mena depuis, disent les frères parfaits, une conduite exemplaire. Retirée à Meudon, où elle avait une charmante maison de campagne, elle se consacra uniquement à l'éducation du fils qu'elle avait eu de Guérin et qu'elle aimait à la passion. Les orages de la vie d'Armande n'exercèrent sur son talent aucune influence fâcheuse. Elle resta la plus excellente comédienne de son temps. Elle porta sans jamais faiblir le poids écrasant de l'œuvre de Molière. Jusqu'au dernier jour, elle joua seule les rôles écrits pour elle et qu'elle avait créés avec tant d'éclat et de succès. Léonore de l'École des Maris, Orphise des Fâcheux, Élise de la Critique de l'École des Femmes, Célimène du Misanthrope, son Triomphe, Elmire de Tartuffe, Alcmène d'Amphitryon, Élise de l'Avare, Henriette des Femmes Savantes, Angélique de Georges Dandin et tant d'autres encore. Enfin, le 14 octobre 1694, Armande prit sa retraite avec une pension de 1000 livres. Elle n'a pas d'histoire pendant ces dernières années. On ne la voyait que rarement à Paris. Elle était presque oubliée lorsqu'elle mourut, 6 ans plus tard, le 30 novembre 1700. Des 3 enfants que Molière avait eus, un seul lui survécut, sa fille Madeleine. Lorsqu'elle eut 16 ans, Armande voulut la faire entrer en religion pour pouvoir disposer de ses biens en faveur du fils de Guérin. Mais la jeune fille n'avait aucune vocation pour le couvent et il fallut l'en retirer. À 20 ans, voyant que sa mère ne songeait pas à la marier, elle se laissa enlever par un homme d'une quarantaine d'années, veuf avec 4 enfants, Rachel de Montalant. Armande voulut poursuivre, mais des amis s'interposèrent et les fugitifs se marièrent et allèrent vivre à Auteuil. La fille de Molière mourut sans enfant en 1723. Armande n'avait jamais aimé cette fille qui était pour elle comme un extrait de naissance vivant. Madeleine n'était pas jolie, mais elle était spirituelle. « Quel âge avez-vous, mon enfant ?» lui demandait un jour Chapelle. « 16 ans et demi, » répondit-elle tout bas, « mais n'en dites rien à maman. »